Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie.
Tout ce qu'on crée, c'est une réponse à la violence.
Il faut pouvoir occuper l'espace.
L'évolution qu'on est en train de vivre.
L'archive, c'est notre mémoire.
J'ai envie de croire en notre faculté de déranger, disrupter et créer pour se sentir de plus en plus libre. J'ai envie de croire en une discipline de douceur envers nous-mêmes. J'ai envie de croire en une utilisation consciente des mots, ni subie, ni induite. Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi Podcast, nous recevons Camille Aumont-Carnel à l'occasion de la publication de son ouvrage « Les mots du cul, manifeste joyeux des sexualités » aux éditions Le Robert. C'est parti. Bonsoir Camille.
Bonsoir.
Bienvenue à la librairie. Il était temps, parce que je ne me rendais pas compte que ça fait 5 ans, c'est ça?
Ouais,
ça fait 5 ans que tu as créé...
Je m'emballe clito,
je viens d'avoir un bug.
J'ai vu, t'inquiète.
Incroyable. Mais c'est parce qu'il y a trop d'expressions incroyables dans ton livre où j'allais dire autre chose.
Non, ouais, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Octobre 2018, tu vois.
Ah ouais.
Sur un coup de tête comme ça, parce que mes potes racontaient de la merde. Et du coup, c'est comme ça que cette histoire est née. C'est la vraie histoire, hein. C'est pas un storytelling que j'ai inventé quand on me demande la genèse de tout ça. Ça fait partie des moments où j'étais, je pense, le plus en colère. Moi, j'ai une colère qui est très créatrice et je fais beaucoup de choses sous colère et je suis très efficace et pertinente sous colère. Donc, j'assume d'être colère et de surtout laisser beaucoup d'espace à l'expression de ma colère. Enfin, je me donne l'autorisation d'envoyer chier les gens globalement. Et de faire preuve même parfois d'une certaine forme de violence, même si on nous a appris plutôt l'inverse.
Parce que, alors, j'ai tenté de remonter au tout premier post.
C'est dur, c'est long, faut scroller pendant 4 combats.
Oui, et puis, enfin, je m'arrêtais pour en lire. Donc, je me suis dit, mais j'ai pas la journée. Voilà. Mais c'est vrai que là, en fait, pour en arriver à la sortie de ton livre, donc on te reçoit, puisque tu viens de publier aux éditions Le Robert, Les mots du cul, manifeste joyeux des sexualités. Mais pour en arriver là, pour pouvoir faire une sorte de dictionnaire, d'encyclopédie, en tout cas, c'est des grands mots pour situer en fait le type de livre que tu as créé. C'est important aussi de comprendre d'où tu viens et de comment ça s'est mis en place, parce que on peut pas sortir de nulle part, je pense, et sortir ce livre. C'est-à-dire qu'il faut quand même un sacré backup d'expérience, d'humour, de discussion avec les gens. Et on sait bien que, enfin, ou en tout cas, si on ne le sait pas, tu as une sacrée communauté aussi sur Instagram. Et donc, il y a dû avoir cette construction ensemble pendant ces 5 ans.
Ouais, complètement, bien sûr. Je pense que c'est... Il y a plusieurs étapes. Et ce qui est intéressant, c'est que je m'en rends compte à peu près maintenant, mais chacun de mes 3 ouvrages, parce que du coup, celui-ci, c'est le 3e, sont venus répondre à un besoin que j'avais à ce moment-là. Et donc, le premier qui s'appelle « Je m'en bats avec Lito », il y avait pour moi un besoin de matérialisation de mon concept et de matérialisation de ce qui était en train de se passer. C'est le moment où il y avait toute la censure sur Instagram et où, globalement, nos comptes menaçaient d'être censurés et de sauter à peu près genre tous les 4 jours. Et donc, je me disais « Waouh, en fait... Si littéralement demain il décide d'appuyer sur un bouton et de faire sauter ça, finalement il reste pas grand chose. Et donc le fait d'arriver avec un objet qui était palpable, moi c'est quelque chose qui pour moi me rassurait. Et cette expression je m'en bats clito, je voulais l'inscrire aussi quelque part. Donc le premier c'est vraiment presque une adaptation texto de ce que je faisais sur Instagram. Adosexo arrive à un moment donné où je crois que j'ai sur les 200-300 messages que je reçois par jour, j'en ai 50 au moins d'ados qui sont genre en panique. Et qui me disent vraiment on nous a laissé tomber quoi. Il y a personne qui adresse nos sujets, on n'a pas d'espace où vraiment poser nos questions, on n'a pas vraiment de tiers de confiance qui comprennent nos codes, notre façon de parler. Et je me rends compte qu'en fait les ados finissent par comprendre et par utiliser ma plateforme comme étant presque une espèce de plateforme d'éducation sexuelle. Et je me dis bah franchement je vois bien que c'est toujours un peu les mêmes questions qu'on me pose. Comment est-ce que je peux créer un outil pour essayer de centraliser tout ça? Et c'est là que né Adosexo, que je lance ce questionnaire auquel 26 000 ados ont répondu et j'en ai choisi 1200 que j'ai interviewé pendant 2 ans. Au-delà de la France, moi ce qui m'intéressait c'était la francophonie, donc il y a la France, la Suisse, la Belgique, le Canada, le Mali, Madagascar et le Sénégal. Et donc ça, pour le coup, Adosexo, je ne l'ai pas écrit parce que ça me faisait kiffer, ça a été un livre hyper dur à écrire et un process aussi. Je l'ai fait parce qu'il fallait que cet objet existe. Et parce que j'en pouvais plus d'entendre, oui, mais en même temps, il n'y a pas d'ouvrage d'éducation sexuelle qui s'adresse aux ados avec leur code, mais aussi revu par des professionnels de la santé sexuelle. Du coup, il y avait un peu un truc genre, maintenant il existe, vous pouvez débloquer du budget et genre vous sortez les doigts. Merci. Et les mots du cul arrivent il y a 2 ans, au moment où je suis en train de me poser la question de l'institutionnel, de comment protéger mon propos. Et de comment faire en sorte que mon propos perdure. C'est con, par exemple, mais ma première maison d'édition a fait faillite. Donc, en fait, là, on est dans toute une tanasse de récupération des droits. Mais ce que ça veut aussi dire, c'est que, du coup, l'objet qu'est ce premier livre n'est pas protégé. Moi, ce qui me rendrait ouf, c'est de me dire que le jour où je suis plus là, mes bouquins partent avec moi, où il y a un truc qui fait qu'en fait, c'était pas solide, tout ça. Bellux n'est plus là, et on peut encore lire Bellux, et en fait, littéralement, moi, ça me sauve. Et donc, je me disais, waouh, comment est-ce que je peux faire pour protéger un maximum ça? Et en fait, c'est l'institutionnel. C'est l'institutionnel, c'est des maisons d'édition comme Albin Michel, comme Le Robert, qui sont quand même des tanks et des mastodontes. Et sur ces questions-là de la langue et des expressions, c'était Le Robert ou Larousse, quoi. Et à ce moment-là, mon éditrice m'appelle, trouve mon numéro de téléphone. Je me souviens, ce premier échange était genre, j'étais hyper vénère. J'ai dit, mais comment vous avez trouvé mon téléphone? C'est quoi ce bordel? J'étais vénère. Elle m'a dit, alors j'ai un projet assez cool. Et là, elle me pitch le projet qui est vraiment, on veut faire une collection qui s'appelle « Dire, c'est agir ». Et on veut y mettre à l'honneur des leaders et des leaders d'opinion qui, à travers leurs mots et à travers les mots, nous donnent leur avis et nous donnent leur regard sur ce qui se passe dans la société. Franchement, je trouve le pitch brillant. Mm-hmm. Et c'est comme ça que commence cette aventure. Et les mots du cul, ça a été... on l'a construit en faisant, quoi. Il n'y avait pas de maquette initiale, toute la réflexion devait être faite. Et puis, je me souviens que je prends mon téléphone et je note toutes les expressions qui, pour moi, parlent de sexualité avec un S à la fin. Et je me suis dit, waouh, à 75%, elles sont problématiques, quoi. Et donc, j'écris les définitions avec mon ton. Et je me dis, franchement, j'ai pas envie de sortir un épisode où juste je dis que c'est la merde et qu'en fait, les mots qu'on utilise ne vont pas et qu'ils sont soit putophobes, soit homophobes, soit sodomitophobes, soit... Enfin, ça me saoulait. Et puis donc, je me suis dit, bon, première étape, c'est de prendre les expressions que je trouve problématiques et de proposer des pendants qui sont tout aussi forts, mais qui sont peut-être moins problématiques, qui insultent du moins personne. Et une fois que je fais ça, arrive cette deuxième baffe dans la gueule où je me dis, en fait, là, les mots que j'ai, alors que j'avais l'impression d'avoir un sommaire hyper complet, franchement, ça couvre 30% de ce que je vis, quoi. Et c'est là qu'arrive la question de, et si j'inventais des expressions? Et si je proposais des expressions pour des réalités qui sont déjà existantes? Et c'est ce que j'essaie de théoriser, qui s'appelle la densification linguistique. C'est le fait de se dire, bah, il y a des choses qu'on vit, on ne s'est pas mis d'accord sur des mots, c'est une des grandes tentatives du patriarcat pour faire en sorte de perpétuer le tabou, cimère. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution? Et est-ce que finalement, c'est hyper cruel de ne pas nous donner les mots pour qu'on puisse nommer, pour qu'on puisse en parler entre nous? Et il y a une trend en ce moment sur Instagram et TikTok où on se fout de la gueule des meufs, où on dit qu'en fait, on ne sait pas communiquer sans faire des vocaux genre de 25 minutes et on dit, elles font pas des vocaux, elles font des podcasts. En fait, la vraie raison pour laquelle on fait des podcasts, et notamment quand on parle de nos sexualités et de nos plans cul et de nos coups d'un soir, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de mots. Et très vite, ce qui se passe, c'est qu'on écoute, l'audio fait 2 minutes, et très vite, on coupe, on dit, meuf, j'ai pas écouté jusqu'à la fin, mais je vois très très bien de quoi tu parles. Mais oui, c'est exactement cette sensation qu'en fait, bah du coup, pourquoi il n'y a pas de mots? Et tout ça s'inscrit là-dedans.
Mais ce qu'on entend très bien et depuis le début, c'est vraiment cette petite lubie, si tu me permets, pour la linguistique. Donc ouais. J'ai lu en effet, tout ce travail, c'était de continuer une révolution linguistique. Et ce qui est assez touchant, j'ai trouvé, tu commences en fait les mots du cul par aussi nous expliquer d'où vient ton amour des mots, ton envie en fait de connaître les étymologies, etc. Et on apprend que tu es trilingue. Et donc, ouais. Ce livre va aussi beaucoup parler de ça, de comment des autres réalités linguistiques, ouais. On peut apprendre d'autres façons de dire. Et ces endroits-là, ils sont extrêmement drôles en plus, parce que les expressions... Enfin, on sait bien sur des expressions complètement lambda que c'est déjà parfois hyper à côté. Mais alors, au niveau des sexualités, il y a vraiment des images parfois, ouais. On se dit... Mais quel est ce peuple?
C'est-à-dire,
quelle est cette culture?
C'est-à-dire. Non, entièrement. Et tu vois, dans celui-ci, Attends, c'est quoi cette phrase? Tant dans celui-ci que dans celui que je suis en train d'écrire là maintenant, j'ai vraiment ce besoin et cette urgence de dédier quand même pas mal de temps à d'où est-ce que je parle? Qui est-ce que je suis? Pourquoi est-ce que finalement pourquoi c'est cette proposition-là que je fais? Parce que c'est une proposition de fond, de forme, de DA, de tout, et de mise en page d'un dictionnaire, de... Et donc, je me suis dit, bah, faut quand même que j'installe ça. Et quand j'ai compris qu'en fait, mon cerveau, du moins mes pensées, n'étaient pas du tout sectionnées par langue, et qu'en fait, c'était plutôt un espèce de paysage hyper vaste où il n'y avait pas de cloison et qui me permettait justement de naviguer de façon beaucoup plus simple à l'intérieur de chacune de ces langues, parce que je ne suis pas la même personne quand je pense en espagnol que quand je pense en français, parce que je ne suis pas la même personne quand je ken avec une personne qui parle espagnol en Espagne que quand je ken avec des Français, parce que je ne suis pas la même personne quand je m'énerve en espagnol. Je me suis dit, ok, bah en fait, je vais aller prendre le meilleur de chacun de ces espaces et de chacune des facettes de mon identité linguistique. Et ça, ça m'a fait vachement bien quand j'ai compris ça. Et puis j'ai retracé, je me suis dit, putain, en fait, ma psy, vous êtes quand même vachement en colère. Faudrait peut-être arriver à... En gros, elle me dit, sur du long terme, c'est pas vivable. Je dis, c'est pas grave, je vais mourir vénère et ça va bien se passer. Et j'essaie de retracer un petit peu et je comprends qu'en fait, vraiment, à 6 ans, cette prof qui me demande au CP de conjuguer une phrase dans laquelle il y a un exemple avec trois femmes et un homme, et moi je conjugue au féminin. Et vraiment, elle tente une espèce d'approche humiliante de « Ah bah c'est super que Camille ait fait la faute, parce que ça nous permet d'introduire la règle du masculin à la place du féminin. » Je sais pas comment vous dire. Là, je viens de le dire, j'ai un frisson dans le dos. La violence de cette phrase, qui est normalisée et qui est, en plus de ça, enseignée, c'est-à-dire que quand là, le dernier rapport du Haut Conseil d'égalité, quand on dit le sexisme est une matière, oui, absolument. Et je me souviens m'être dit, en fait, moi, je refuse, quoi, cette phrase. J'accepterai jamais qu'on me dise ça. Tant parce qu'en fait, j'ai pas été élevée comme ça et que, globalement, ma mère gagne plus que mon père et que, accessoirement, dans cette école, je fais deux têtes de plus que tout le monde, y compris les garçons. Que s'il y en a une qui manque à l'école et qu'on remarque, c'est moi, et que globalement, j'occupe plus l'espace. Donc en fait, je l'emporte sur le masculin. Tout ça fait qu'à 6 ans, c'était ma première un peu révolte féministe et je me suis dit, mais en fait, t'es qui pour nous dire ça? Et parce que derrière, j'avais l'impression et je comprenais déjà que ça allait légitimer beaucoup de choses et notamment beaucoup d'agissements, et notamment dans la cour de récré, ça laisse le droit et ça autorise presque du coup tout un tas de choses et ça part de cette phrase-là. Qui n'est pas juste, c'est pas juste une phrase qu'on entend, c'est une phrase qui est enseignée par une personne qui est un professeur, une professeure, donc qui a un espèce de statut aussi d'autorité et de on ne remet pas en question ce que dit cette personne. Franchement, ça me fait vriller. Et donc, ça, c'est le français, ça, c'est mon rapport au français, ça commence comme ça. Pas ouf. Et ensuite arrive l'espagnol. L'espagnol arrive à un moment donné où je viens d'arriver en Espagne, j'ai 9 ans. Et ça me fait vachement du bien parce qu'en Espagne, et notamment en espagnol, la féminisation des métiers n'est pas un sujet. C'est une langue qui est pensée pour que le vulgaire soit féminin aussi, mais pas dans le sens de « vous faites comme les hommes », dans le sens où il y a des expressions pensées déjà pour ce que vous avez entre les jambes. Donc quand on dit « ça me casse les couilles », tu dis « mettons los cojones », mais existe depuis toujours, mettons qu'elle cogne. C'est pas, et ça fait le même effet quand tu le dis. L'Espagne, notamment Madrid, moi la ville dans laquelle j'ai grandi, c'est une ville où il y a des très très larges trottoirs et du coup l'occupation de l'espace public est hyper différent que celui qu'on peut avoir en France, ou notamment à Paris, où en fait, en tant que femme, on ne se sent pas en sécurité pour siéger au sein de l'espace public, on le traverse uniquement. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de bancs, on s'est rendu compte que les trottoirs n'étaient pas assez larges, il n'y a que 12% des rues qui ont des noms féminins. L'Espagne, Madrid du moins, est une ville assez différente, et c'est une ville dans laquelle les femmes parlent très... Les Espagnols et parlent très fort. Enfin, globalement, c'est des gens qui gueulent. Moi, je suis assez à l'aise avec ça. Et surtout les femmes. Et en fait, moi, je me souviens qu'à Madrid... À un moment donné, on a déménagé. En fait, on a été dans un appartement où c'était un immeuble à l'ancienne, dans un quartier qui s'appelle Lavapiés, où en fait, il y a une espèce de patio central qui remonte, une espèce d'énorme colonne comme ça. En fait, de 7h du matin à 1h du matin, t'entends les daronnes et les grand-mères gueuler. Tu te réveilles, ça gueule. Tu te couches, ça gueule. Ça s'énerve, ça râle. Et ça, on le retrouve aussi dans la rue. C'est les grand-mères qui sont en train de boire une bière, c'est les grand-mères qui sont en train de s'occuper de leurs petits-enfants, c'est les grand-mères qui littéralement te foutent un gros coup avec leur sac pour que tu leur laisses la place dans le bus. Moi, j'ai grandi là-dedans et en fait, rentrer le soir en mini-jupe et savoir qu'en fait, il y a des femmes qui gueulent, c'est une des sensations les plus rassurantes que j'ai jamais eues de toute ma vie. J'avais 11 ans. 11 ans, 12 ans, c'est la préadolescence qu'on commence un petit peu à faire des trucs. Donc, ça, c'est mon rapport à l'espagnol. Et l'anglais est arrivé de façon plus. C'était un peu la langue que je parlais pour être cool. Au début. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était quand même important et ça allait potentiellement me servir que de parler anglais. Et donc là arrive, j'ai fait une section européenne, donc j'avais histoire, géo et maths en anglais. Et puis j'ai appris l'anglais, et puis j'ai compris que j'étais assez à l'aise, je savais pas pourquoi, mais c'est parce que la neutralité de cette langue apporte une certaine dimension inclusive que je trouve finalement plutôt pas mal. Et le français, je pense que je ne travaillerai pas sur la langue espagnole, je ne travaillerai pas sur la langue anglaise, sauf par des petites, avec des petites bribes comme on peut l'avoir dans l'ouvrage. Mais le français, il y a du taf, quoi. Et cette... Ouais. Et c'est pour ça que je me suis... ouais, c'est chaud. Et c'est pour ça que je me suis attelée à vraiment la traiter. Et la traiter au sein de l'institutionnel, il y a une forme de protection. En fait, c'est-à-dire que d'abord, on parle de la langue et ensuite, on parle des sujets féministes. Mmh. Donc, il y a une forme de distance qui est... et je l'ai vu dans tout l'exercice médiatique de la promo. Un, le fait que ce soit le Robert, il y a un truc de... En fait, du coup, on ne peut plus dire que c'est la petite meuf qui fait des vannes marrantes sur Instagram. Et deux, ce qu'on m'a quand même dit pendant très longtemps, encore une fois, une tentative de décrédibilisation de... Mais en fait, ils ne sont même pas inventifs dans les techniques pour essayer de nous niquer, ça me rend fou. Qu'est-ce que je vous disais ? Je vous disais que le fait que ce soit au sein du Robert, ça donne une certaine légitimité à mon propos. Pas que je ne l'avais pas, mais d'un point de vue du regard extérieur, je vois ce que ça apporte. Et puis le fait aussi que c'est une maison d'édition, c'est pas une maison d'édition féministe, c'est une maison d'édition qui traite de la langue. Donc les premières questions traitent de la langue avant tout. Et ça me laisse du coup de l'espace pour arriver et pas sentir qu'il y a cette forme de tentative de me piéger à un moment donné sur des questions féministes ou sur des questions sexo ou de créer un malaise ou de créer la séquence. Et ça, du coup, dans l'exercice promotionnel médiatique, c'est ce que j'ai trouvé assez intéressant. Et, et finalement, c'est ce que je suis venue chercher aussi là-dedans, c'est que je porte dans mon cœur toutes les maisons d'édition féministes et je me suis posé beaucoup la question de, du coup, c'était quoi ma branche ? Est-ce que moi, j'allais publier des livres au sein de maisons d'édition féministes ? Ou est-ce qu'en fait, j'allais aller plutôt avec des mastodontes ? Oui, il y a un moment donné où ça se fait dans la violence, mais où il y a des budgets et où, en fait, le propos va être... Je ne dis pas plus protégé, mais il y a une... Dans la dimension long-termiste, le livre est installé.
Mmh. Oui, après, il y a peut-être aussi le... Enfin, voilà, quand on parle du le Robert, c'est le dictionnaire.
Ouais.
Enfin, il y a une image... très populaire et commune de savoir que ce sont des dictionnaires.
On ne remet pas en question les dictionnaires.
Pas du tout.
On les lit.
Mm-hmm.
On cherche pas. En fait, il n'y a pas d'espace pour challenger ton propos.
Mm-hmm.
Ça fait du bien.
Mm. Mais... en tout cas, voilà. Même si ton livre n'a pas le look d'un dictionnaire, un travail. Tu le disais.
J'étais là, on n'est pas des ploucs. Hein. Ouais, non.
Donc, ce qui crée aussi quelque chose d'une... Enfin, il n'y a pas d'attente spécifique de mise en page, etc. Et donc, moi, j'avoue que j'ai dû vraiment regarder comment ça s'était construit. Comment...
Oh, wow.
Bah oui, mais j'adore. Parce que c'est tout le principe d'un dictionnaire. Bien généralement, tu as une méthode, tu as une façon de dire. Donc, tu vas avoir le mot en gras, son étymologie, la définition, l'usuel, des petites choses de la littérature. Enfin, après, chaque dictionnaire encyclopédie a un petit peu sa touch. Mais et moi, j'ai vraiment... j'ai pris un papier et j'ai dit, OK, quelles sont toutes les catégories de l'expression, du mot, de l'endroit, etc. Ouais. Et là, c'était drôle, parce que c'est comme ça. Je pense qu'on comprend aussi le côté plus déviant, en fait, de ce travail que tu as proposé. Cet endroit-là de recherche, de se dire, OK, en fait, il y a la définition qu'on pourrait trouver plus facilement, et encore, c'est pas trop ce que tu fais. Ouais. On va dire que c'est un chouïa de ce qu'on peut voir d'abord. Tu vas avoir des petits ajouts au fur et à mesure, des endroits plus d'humour, des endroits plus de mise en situation, d'action, de proposition aussi. Faites plutôt ça, dites plutôt ça. Ouais. Une sociolinguiste qui va accompagner ton propos, etc. Toute cette mise en place-là, Elle vient de toi, d'une discussion collégiale, de se dire, c'est des équipes qui ont l'habitude aussi de faire des dictionnaires, donc on pourrait s'attendre qu'ils ont plein d'innovations en tête pour proposer des mots. Ou est-ce que c'est toi qui es arrivé ? Alors en fait, ok, ouais, je vois le...
Moi j'ai plutôt un côté... Alors en fait, je vais vous expliquer comment ça va se passer.
Très bien.
J'assume, j'ai un côté hyper autoritaire, j'assume. Je prends de la place, j'occupe l'espace, je sais. Mais pourquoi pas ? En fait, je suis tellement sincère vis-à-vis de ça que du coup, je fais pas semblant, quoi.
Mm-hmm.
Non, ça s'est pas fait comme ça, parce que ça part d'abord d'une... En fait, ça part presque d'un récit à la première personne. Donc, c'est compliqué de demander l'avis ou d'essayer de réfléchir ensemble à une forme de mise en page qui, finalement, doit d'abord me ressembler.
Mm-hmm.
C'était la mienne, tant la préoccupation de mon éditrice que de ma co-autrice, c'était vraiment de pas... faut pas que j'ai l'impression de me travestir au nom d'une institution ou au nom d'une grande maison d'édition. Ça, c'était vraiment le challenge pour moi. Et non, on a d'abord Moi, je suis d'abord allée chercher des inspis plus de ce qui pouvait se faire en termes de mise en page de mots, mais avec un aspect beaucoup plus design, avec un aspect... Moi, j'ai pensé la mise en page comme un magazine, presque. Mm-hmm. Pour moi, c'était un objet à part entière, c'est-à-dire que je voulais un titre fort qui détabouisse déjà et qui fasse en sorte qu'en fait, juste le poser dans tes chiottes ou sur la table de chevet ou sur la table du salon, parce que c'est un objet qui va entre le livre de mode et le livre d'art de Frida Kahlo. Il y avait un côté, comment est-ce que je peux réfléchir à l'objet de façon à ce que, ne serait-ce que sa présence, soit mette mal à l'aise, soit lance des discussions. Et en fait, quand t'as les mots du... T'es obligé au moins de t'arrêter et de regarder ce qui se passe. Et du coup, c'était comme... Il y avait quand même un biais, un aspect marketing qui était important. Mais parce qu'en fait, on traite de sujets qui sont compliqués. Et donc, à un moment donné, si on joue pas un peu le côté clic-clic ou le côté je veux que ça t'attire, c'est compliqué. Donc, on a d'abord réfléchi à... dans l'idéal, à quoi est-ce que je veux que ça ressemble. Et ensuite, je l'ai proposé en disant, bah, pour moi, c'est ça la DA. Ce qui est... La chance que j'ai, c'est que je suis la première de la collection. Donc, en fait, il n'y a pas encore de... Par exemple, les suivants vont devoir, du coup, faire ce que moi, j'ai fait. Voilà. Mais encore une fois, même là-dessus, on l'a pensé de façon à ce que... Voilà, il y a la bichronomie. Donc, en fait, ça faudra choisir deux couleurs. Et ensuite, à l'intérieur, l'idée, c'était vraiment de s'amuser, de casser avec cette image hyper sérieux du dictionnaire où c'est un ouvrage qu'on utilise uniquement dans les moments studieux. Ouais, c'est chiant. C'est chiant, et donc on a tous des téléphones, donc en fait, faites pas genre. Mais comment est-ce qu'on pouvait ramener la langue et comment est-ce qu'on pouvait ramener les mots au sein d'un ouvrage qui d'ailleurs n'est pas. Qui d'ailleurs se picore. On s'est demandé, est-ce qu'on les met par ordre alphabétique, comment est-ce qu'on les classifie, est-ce qu'on met d'un côté tous les mots qui existent déjà, est-ce que de l'autre côté on met toutes les expressions qui sont inventées ou proposées. Donc il y a eu toute une réflexion autour de ça. Ça s'est plutôt fait. Ma graphiste et directrice artistique, mon éditrice, ma co-autrice et moi. Et ensuite, ça a été soumis au N plus 1, N plus 2 et compagnie, mais c'était presque pas soumis, c'était plus une... pour un fou. Ouais.
Ouais. Mais ce qui, moi, typiquement, mais il m'a fait... après, c'était rigolo parce que quand on découvre des projets éditoriaux comme ça, des fois on est lente sur des choses où on n'avait pas compris et c'est au bout de la moitié du livre, on se dit, mais attends, il y a une récurrence, là, il y a quelque chose, et donc on revient au début. Et j'ai eu ça avec le Je suis vénère. Ouais. Parce que déjà, VNR. Bon, des fois je suis vraiment très lente. Je ne l'avais pas eu tout de suite. Mais je me fais rire, hein, je m'adore. Sur des moments, je dis tchou.
On joue avec vraiment, les mots.
Je pensais que tu étais très vieille. Il y a la liberté horizontale.
Ouais.
Voilà, ça, c'est quand même deux des endroits où.
C'est des encarts, ouais.
C'est des encarts, c'est toujours la même pagination, etc. Et typiquement, je me suis dit, mais c'est chouette parce qu'on a. Une fois que j'ai tout compris, on a le côté, en fait, ce mot, moi, quand je l'utilise comme ça, ça me plaît pas, parce que ça veut dire ça, ça veut pas dire ça, ça invisibilise, etc. Tu passes à d'autres définitions de ce mot, d'autres endroits, et puis la liberté horizontale qui vient proposer quand même quelque chose d'une ouverture, de essayer ci comme ça, et essayer comme ça. Et ça, en fait, c'est complètement pas habituel sur un dictionnaire. Un dictionnaire, c'est
point... Non, c'est tellement pas habituel que ça a été notre première embrouille. Ah. Ouh. T'es très forte quand même. Hein. J'en ai fait des interviews, hein, ils ont pas pointé ça du doigt. Donc, V1 du manuscrit. Ça s'appelle pas à la base... ça s'appelle pas... Je suis vénère, ça existe déjà, c'est les encarts. Et il y a un encart plus... je sais plus comment je l'appelle, ou... Ou en gros, j'explique comment ça se passe, ou j'explique quelle est la pratique qui est dérivée de cette expression. Enfin, il y a un côté un peu pédago. Enfin, je fais de la transmission, quoi, genre normal. Et j'arrive au sein des bureaux de Le Robert. Et j'ai autour d'une table donc, mes deux attachés de presse, mon agent, on est 13, enfin, genre on est 15, tu vois. Toute la team et tout machin, dont le directeur de la maison d'édition Robert, qui me dit. Qui me dit oui, bravo, vous travaillez vite, vous travaillez bien. Ok, frère. Et qui me dit enfin, par contre, toute la partie là où vous expliquez, vous donnez des. Je pense qu'il faut les enlever. Suivi de. On traite de la langue. Il y a un aspect hyper noble, un peu de. On traite de la langue. Nous, c'est la linguistique. En gros, on ne fait pas des guides pratiques, quoi. Et en fait, je vous jure, j'ai fondu en larmes. J'ai fondu en larmes parce que. Et je lui ai dit, mais c'est cruel. Ce que vous faites. C'est-à-dire qu'on va proposer un outil, on va proposer un médium, on va proposer un ouvrage qui va circuler. Et là, vous êtes en train de me dire que, en conscience, il va falloir qu'on prive les personnes d'un savoir que moi, par privilège, niveau de conscience, travail sur moi-même, expertise, discussion, j'ai acquéri. Et que du coup, la base de ce que je fais, c'est-à-dire transmettre l'information, est en gros moins importante que la noblesse de la langue française. Ta grand-mère. En fait. Et donc, je fous en larmes en me disant, mais en fait, c'est cruel de savoir et de me demander de... Et il y avait un côté, qui êtes-vous, quoi. Enfin, et je lui ai dit, en fait, j'y crois pas, c'est pas le coq ou la poule, quoi. C'est pas la poule ou l'œuf, c'est vraiment... je lui dis, le mot chaise, il existe parce qu'en fait, on pose notre cul dessus. Donc, d'abord, on fait. Et après, potentiellement... Et finalement, on s'est mis d'accord sur changer le nom de l'encart et c'est devenu... ça, mais à la base, il y avait un truc vraiment de non, mais nous, on traite de la langue. Et donc, ça a été des vives discussions. Et je l'assume complètement, tout le background, tout le backstage de comment est-ce qu'on construit un ouvrage comme ça au sein de cette structure-là. Ouais, c'est pas des embrouilles, mais le ton monte, on n'est pas d'accord. Et là-dessus, j'étais là, en fait, je ne me vois pas publier le livre, en être fière et dire, en fait, j'aurais pu vous apprendre tout ça, j'aurais pu vous... Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, en fait, vous comprenez pas à quel point les femmes, globalement, ce qu'elles me demandent, c'est elles attendaient juste l'autorisation. En fait, c'est des milliers de personnes qui, ces 5 dernières années, m'ont dit, en fait, je savais pas que j'avais le droit. Je savais pas que j'avais le droit. Je savais pas que je pouvais. Je savais pas que... Et je me suis demandé, mais du coup, elles attendaient l'autorisation de qui? Et puis après, j'ai compris qu'en fait, on s'en fout. Et que s'il faut que ça soit moi, ça sera moi. Et donc, ces encarts-là, ils permettent aussi de dire, en fait, vas-y, t'as le droit. T'as le droit. Je te montre que moi, le récit de mes sexualités à la première personne n'est pas un espace de vulnérabilité. Je suis inattaquable là-dessus. Tu ne me mettras pas mal à l'aise vis-à-vis de ça. Donc, ça sert à rien de venir me reparler de, tu vois, globalement, de ce que j'ai dit parce que j'assume complètement. Et il y avait un truc aussi de, bah, je te montre jusqu'à où, au sein de ce niveau-là d'institutionnel et au sein d'un ouvrage et de cette collection, j'ai pu m'autoriser. Donc, c'est-à-dire inventer des mots, proposer des nouveaux mots, tout en abordant le thème des sexualités pour que tu comprennes aussi, toi, jusqu'à où tu peux t'autoriser dans ta propre sexualité. Il y avait un double message pour moi qui était hyper important. Et c'est pour ça que j'ai voulu pousser le curseur jusqu'au bout. Alors, déontologiquement, ouais, se poser la question, quoi. Parce que, bah, d'abord, il y a un comité qui observe la société, qui observe les usages. Et puis, en fait, il y a des mots qu'on sent un petit peu peut-être arriver. Il y a un comité qui se réunit. Est-ce qu'on le fait rentrer au Robert? Est-ce qu'on ne le fait pas rentrer au Robert? Enfin, il y a un taf, quoi. Et c'est jamais des mots qui n'existent pas. Et moi, j'arrive, en fait, j'ai pas votre temps. Et je le dis toujours la même chose, 5000 ans de patriarcat, je peux pas attendre. Donc, on va proposer des mots. Et ça, vous êtes pas, en fait, vous êtes pas content, globalement, je m'en bats le clito, quoi. Et il y aura pas mort d'homme, quoi. Donc, c'est tout ça qui s'est joué aussi. C'est pour ça que je passe du temps à expliquer, mais c'est presque le backstage de la création de cet ouvrage est presque tout aussi importante que l'intérieur. Ouais.
Mais c'est-à-dire qu'avec un nom de collection, dire, c'est agir, ouais. C'est aussi le principe du nommer, c'est faire exister.
Ouais,
et on est quand même dans nos luttes à un endroit extrêmement précis de ça. C'est-à-dire que tant que le mot, la situation, les représentations, tout ça n'existe pas dans nos histoires, alors que ce soit dans les fictions, dans les essais, dans les albums jeunesse, etc., ben en fait, beaucoup de personnes pourraient imaginer qu'elles n'existent pas ou ouais. Carrément ne pas du tout les imaginer. Donc, il y a en effet cet endroit-là qu'on vient d'entendre, de se dire « je ne suis pas légitime à faire ci puisque je ne l'ai lu nulle part ». Ben, c'est clair, si une personne n'a jamais entendu parler de femmes qui s'aiment, comment cette personne peut se dire « je vais y aller, je vais le faire, je vais aimer une femme ». Enfin, c'est des choses aussi simples que ça.
Ouais, et même, moi je me souviens d'un post qui était où j'expliquais que parfois, le soir ou le matin, je prenais un miroir et je regardais mon sexe. Et en fait, je sais pas, c'est des milliers de messages dans mes DM en mode « mais t'as le droit ?» Mais comment ça j'ai le droit ? Oui, je le fais, quoi. Et après, elles l'ont fait, mais il y avait un truc de « faut qu'une personne se lance quand même ». Et surtout... Et moi, c'est la posture que j'essaye d'avoir, c'est vraiment, ça ne me coûte pas. Et ce n'est pas un effort que de parler de mes sexualités, ce n'est pas une prise de risque pour moi que de l'exposer publiquement à visage découvert au sein de médias, et parler de mes sexualités, les ancrer dans un livre avec un récit à la première personne, ce n'est pas un espace où je peux être attaquable. Tu peux m'attaquer sur tout le reste, je ne serai ni mal à l'aise, je ne reviendrai pas sur les propos, j'assume. Et ça fait criser, mais à un niveau globalement, médiatiquement, ou même quand tu commences à être une personnalité publique, qu'on t'attaque sur tes potentielles conquêtes et ton corps, c'est les deux trucs trop faciles. Moi, j'ai décidé que c'était les deux choses sur lesquelles j'étais inattaquable. Genre, il n'y a pas de... Mais genre, tu veux dire quoi, du coup? On peut passer à autre chose. Ah, mais du coup, t'as plus rien à dire. Classique.
Sur les sujets que tu abordes, donc on a bien entendu, sont les sexualités.
Ouais,
mais à cet endroit-là, c'est aussi... je trouvais que t'étais allé vraiment très loin, parce qu'on aurait pu... spontanément, alors suivant notre imagination, se dire c'est à peu près ça. C'est, on va dire c'est les mots du sexe, peut-être. Mais en fait, non, c'est pas ça. Et c'est pour ça que ça ne s'appelle pas les mots du sexe.
Non.
C'est les sexualités. Et on va y retrouver de ce fait, évidemment, le cul, évidemment, tout ce qui est de l'ordre du corps. Alors je dis évidemment, mais en fait, c'est pas si évident que ça.
Non, non,
mais tu parles alors de ce que toi tu nommes les irrégulières.
Ouais.
Que d'autres nomment
les
ragnagnas, etc. Tu vas parler aussi de masturbation, d'excitation, ouais, d'éjaculation, mais aussi de violence, de sexe qui fait mal. De, en fait, il y a vraiment une sorte de maille, et comme ça, c'est extrêmement large, et il n'y a pas forcément un rangement très concret. Tu peux passer d'un sujet à un autre, et ça m'a intéressé de me dire, mais comment on fait cette sorte de bordel organisé, parce qu'en vrai t'aurais pu faire des gros chapitres, les violences sexistes et sexuelles, le corps, mais non, en fait on navigue avec toi d'un sujet à un autre.
Je trouvais ça plus intéressant. Il y avait un rapport, souvent on parle d'intersectionnalité, de convergence des luttes, où on parle d'écologie, d'égalité des genres, etc., etc. Et moi, je crois aussi à l'intersectionnalité au sein même de chacune de ces catégories. Et quand on parle de cul et de sexualité, il y a même de l'intersectionnalité à l'intérieur de ça. Et c'était important pour moi d'arriver à le retranscrire de façon visuelle. Et donc, l'organisation, elle vient aussi de là, en disant on peut avoir une analyse chirurgicale à ce point-là. Et on n'est pas obligé de vouloir absolument tout classer. Et l'ordre, de toute façon, l'ordre alphabétique n'aurait pas vraiment fait de sens là. Ce que je trouve important, c'est surtout le cheminement du coup intellectuel, même de l'expérience l'expérience lecteur électrice, quoi. Il y a un truc un peu de, faut que ça soit digeste. Et donc pour que ça soit digeste, j'ai dû repenser les catégories, et pas les trucs cool d'un côté, les trucs moins cool de l'autre côté. Et pareil pour les mots inventés, les mots pas inventés, les deux sont mélangés, mais ça a été un vrai questionnement. Je me suis un peu interdit au début de les classer, donc c'était plutôt de quoi j'ai envie de parler. Et une fois que j'avais toutes les expressions, là il a été question de savoir comment est-ce qu'on allait les classifier. Et finalement on l'a fait comme ça. Et c'est marrant parce que les mots du cul, je l'avais pas au début, j'avais Manifeste joyeux des sexualités, et ça allait être le titre. Et j'ai quand même un côté marketing, moi. Et je me suis dit, ça va pas marcher cette histoire, parce que c'est lourd. Les mots du cul, il y avait un truc, d'abord tu tapes une barre, et puis il y avait le cul qui permettait de rire. Mais je dis ça parce que dans Manifeste joyeux des sexualités, du coup je me suis posé la question de quelle est la place d'un chapitre sur les violences sexuelles, ou quelle est la place d'un chapitre sur le sexe qui fait mal dans un truc où je revendique une forme de joie. Et après je me suis dit, en fait ça a sa place, parce qu'en fait la joie dans la sexualité, dans les sexualités, on n'y est pas encore, et c'est ce vers quoi je tends, et c'est ce dont je rêve pour à peu près toutes les personnes qui ont une sexualité, qui ont une des sexualités, et pour y arriver. Donc c'est vers on est sur du futur, on est sur du, j'espère, moyen court terme. Il faut à un moment donné passer par les angles morts, et passer par les zones d'ombre. Et c'est pour ça que je me suis dit, en fait si, ça a sa place, parce qu'en fait il faut, c'est seulement parce qu'on aura compris, c'est seulement parce qu'on parlera des violences sexuelles, du sexe qui fait mal, de toutes les injonctions, qu'on pourra accéder à une forme de sexe qui n'est que joyeux.
Oui, et puis de politiquement faire coexister, en fait, tous ces endroits-là, ça montre bien en fait que ce n'est pas, en fait, les violences sexistes et sexuelles ne sont pas un livre à part.
Non.
Elles font partie de tout ça.
Ouais.
Et c'est à partir du moment où on le considérera comme inhérent, collé, serré à toutes ces questions-là, que je pense en effet que les choses bougeront. Donc c'est.
Ouais, et il y avait aussi un côté plus imagé de, elles sont à ce point l'approche, ouais, de nous. Et elles sont à ce point là proches de la séance de masturbation. Il y a un côté aussi juste purement, c'est pas territorial, quoi. C'est pas territorial. Il y a pas les personnes à qui ça arrive, les personnes à qui ça n'arrivera jamais. Il y a un truc de, on erre, ça erre un petit peu toujours autour. Et donc c'était important pour moi que ça, justement, on passe d'une page à l'autre et c'est, on est à ça de proximité.
Mmh. Alors, tu l'as dit, c'est joyeux. C'est la joie qu'on veut atteindre. Et il y a une expression. Oh, wow. Je me suis dit, il faut absolument qu'on termine avec ça.
Oh, wow.
Celle que tu souhaites à tout le monde, à tout le monde, la Biclite Énergie.
Ah ouais,
est-ce que tu peux nous faire un petit... là, désolée, là, je suis attendue, mais j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, c'est vrai, on devrait souhaiter des Biclite Énergie.
Ah ouais, je vous souhaite. Moi, la Biclite Énergie, elle arrive à un moment donné de ma vie où, justement, la langue française arrive à ses limites. Et la langue anglaise, voire même le côté la culture américaine a quand même plus d'enjeux d'occupation de l'espace quand on est une femme. Et j'ai l'impression que moi, je m'identifie beaucoup plus à ça. Et on a dit de moi... Moi, là-bas, je fais de la gastronomie. J'ai étudié pendant 4 ans dans une école. Et après, j'ai été formée par les meilleurs chefs français. Je voulais faire partie des meilleurs chefs de ma génération. Mais donc, tout ça pour dire qu'à la base, mon dos, c'est les carottes et les oignons. Et bosser dans des cuisines qui sont réellement organisées comme des armées. Et bosser 19 heures par jour et tout ça et tout ça. Et on a dit de moi pendant ces 4 ans que j'étais un bonhomme. Et on pensait me le dire comme un compliment. Donc c'était vraiment, oh là là, Camille, c'est trop bien de bosser avec elle, c'est un vrai bonhomme. Et moi, j'ai été cette personne qui a dit merci quand on me disait que j'étais un bonhomme. Avant de me rendre compte de tout un tas de trucs. Et de me dire, mais du coup, ça veut dire quoi? Moi, on m'a dit que justement, c'est bien parce que j'étais un bonhomme qui faisait des dressages d'assiettes féminins. Ouais, on est sur une ambiance, je vous laisse. Ouais. Et quand j'entends d'abord parler de Big Dick Energy, et c'est un truc utilisé dans la bouche des femmes, hétérosexuelles, hétéroromantiques, comme un truc de... Ça fait partie des trucs que j'ai kiffé chez lui. Genre, j'adore, en plus, il a une Big Dick Energy. Après, je me suis dit, en fait, on est en plein dans le mythe du virilisme, on est en plein dans la masculinité toxique, c'est ce truc de genre, ouais, c'est un bonhomme, genre, testostéroné, quoi. Et après, je me suis dit, mais on dit... Enfin, qu'est-ce que j'ai envie qu'on dise de moi? Et puis surtout, comment est-ce que moi, je me vois? Et tous les adjectifs qu'on a toujours utilisés pour les mecs, notamment dans les rapports de séduction, en fait, moi, je disais à chaque fois... Mais en fait, j'ai l'impression qu'on parle de moi. Et encore une fois, les hommes, pas problématiques. Hein. Donc c'était, non, mais franchement, cette personne, elle gère, il prend les devants, il drive le truc. Je disais, mais moi, je vais chercher mes dates chez eux en voiture et je les invite au resto et je les dépose, en fait. Enfin, moi, je fais ça. Et du coup, je me suis dit, waouh, et Big Dick Energy, je me disais, non, j'ai pas non plus une Big Dick Energy, j'ai une Big Clit Energy. Et après, c'est personnifié selon chaque personne, et c'est circonstanciel aussi, c'est-à-dire que, bah, dépendamment de... Je sais pas si je suis sur un shooting en train de shooter une marque, un produit ou en train de faire une campagne, je vais avoir une Big Clit Energy qui n'est pas du tout la même que celle que, par exemple, que je peux avoir là ce soir. Et du coup, comprendre aussi l'éventail de cette Big Clit Energy et juste se dire qu'en fait c'est un truc que j'ai toujours en moi et qui émane et j'espère qui fait que j'embarque et tu vois il y a une espèce de un peu tu vois Spider, il y a une espèce de toile un peu protectrice de tu touches à une de mes meufs je te bouffe. J'aimais bien tu vois et quand je l'avais sorti c'était sur Quotidien où Yann me dit c'est la Big Clit Energy et il me dit mais c'est quoi. Et spontanément je lui dis bah c'est moi, j'arrive, je suis grande, non mais le passage de l'espace quoi. Mon attaché de presse en backstage en mode. Elle me dit, qu'est-ce que je te dis? Genre... Et je lui avais dit, bah, c'est ça, j'arrive, ma main, on voit que moi, machin, le glow, il est nickel, la cape, elle est nickel, le propos, il est pertinent, je vous sors les séquences pour que vous puissiez les extraire en reel, elle est drôle, elle est marrante, elle est. Non, non, c'est ça, c'est une Biclite Énergie. Ouais, l'ego de la personne, mais bon, ça va. Tout va bien. Et donc je souhaite à chaque personne qui possède un clitoris d'arriver, si encore une fois, elle, il ou elle le souhaite, à une forme d'énergie qui émane de sa propre personne et qui, du coup, impressionne et, du coup, protège. Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui me font pas chier. Alors, oui, parce que je suis grande et machin, mais même quand j'étais pas connue... Je sais très bien qu'il y avait ce truc qui émanait de ma personne et je refusais qu'on dise de moi que j'étais un bonhomme. Et bien évidemment, après, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut être aussi, on peut faire 1m20 et avoir une Big Clit Énergie. Mais moi, j'ai toujours eu conscience de ça très tôt. Et j'ai toujours cultivé ça pour qu'on m'emmerde le moins possible. Et donc, le fait d'avoir souvent des talons, c'est con, mais en fait, ça veut dire que globalement, je fais 2 mètres. Parce qu'en fait, je fais 1m85. Donc, quand je mets des bottes à talons entre 12 et 15 cm, en fait, je fais 2 mètres. Globalement, t'as moins envie de me faire chier. Le fait que ça fasse du bruit, que je mette des longs manteaux qui ressemblent à des capes, qu'il y ait des couleurs, que du coup on se dise putain, en fait elle c'est pas la discrétion, du coup bon bah c'est ça fait partie de ma stratégie d'occupation de l'espace, mais qui a avant tout une occupation de l'espace qui protège. Et je crois pas à ces personnes qui disent non mais les femmes comme vous de toute façon ça fait peur. Ça c'est un truc qu'on me ressort à chaque fois, notamment dans les rapports de séduction, et je suis là en mode bah non en fait, enfin j'y crois pas, et je leur demande toujours mais du coup tu te sens en insécurité physique en ma présence? Non. Tu te sens en insécurité émotionnelle en ma présence? Non. Tu te sens en insécurité intellectuelle en ma présence? Non. Bah du coup pourquoi tu casses les couilles? Et en fait, et j'apprends, et du, non mais c'est important parce que du coup c'est la langue, et du coup j'apprends à comprendre ce qui va derrière. Et en fait moi quand on me dit tu fais peur, c'est pas tu fais peur, c'est je ne peux pas te dominer, je ne peux pas te manipuler. Et du coup j'ai face à moi des personnes qui ne croient pas au principe d'égalité et qui sont dans un rapport de soit je te domine, soit ça m'intéresse pas l'interaction avec toi, ou même le lien avec toi. Et du coup, quand en face d'eux ou d'elle, eux, on se retrouve avec une personne et moi j'assume ce discours de en fait, soit t'es mon égal, soit je te domine, bah ça pose problème. Et je sais que globalement, les fois où on me dit « Non mais tu fais peur », c'est je vois que ça va être plus compliqué pour moi de te niquer la gueule. Ou je vois que ça va être plus compliqué pour moi d'arriver à mes fins. Ou je vois que ça va être plus compliqué pour moi. Et donc c'est pour ça que je les ramène toujours à « Mais du coup, tu te sens en insécurité quelconque ?» Et en fait, non. Mais on nous a vendu un peu cette espèce de mythe de la discrétion et de la petitesse. Et c'est pour ça que moi, le masculin l'emporte sur le féminin, moi ça m'a fait beaucoup de mal. Et même à 6 ans, parce qu'en fait, c'était contraire à ce que j'avais à la maison, quoi. Moi, j'ai grandi avec une mère diplomate, inspectrice d'éducation nationale, qui voyageait tout le temps, qui faisait des bêtes de projets. C'était la famille qui suivait ma mère de pays en pays quand elle était mutée. Mon père ne travaillait pas. Enfin, moi, j'ai un daron au foyer, passionné de cuisine, de jardinage, de lecture. C'était ça mon schéma familial. Un papa qui allait faire les courses. Et ma mère qui rentrait fatiguée le soir et qui était là en mode t'as fait quoi à manger quoi. J'ai grandi là-dedans en fait. Et donc la sécurité financière a toujours été portée par une femme et la sécurité émotionnelle par un homme. Donc j'ai aussi un rapport pas du tout biaisé, pas du tout anormal, mais on se construit quand même en fonction, soit par schéma de reproduction, soit par schéma de rupture avec ce dans quoi on a vécu. Moi j'ai grandi là-dedans. Et du coup c'est vrai que quand j'arrive et qu'on me dit masculin emporte sur le féminin, je peux pas être pote avec le français. Du coup, je suis obligée de créer des ouvrages où je me dis mon rapport au français, c'est celui-ci, du coup, pas celui qu'on nous enseigne.
Et ça fait beaucoup de bien. Merci beaucoup pour
ça.
Non,
mais merci à toi, merci à vous.
Eh bien, en tout cas, on ne peut que encourager tout le monde à dévorer les mots du cul. Manifeste joyeux des sexualités.
À bouffer les culs.
Ça, ce n'est pas mon langage que nous voyons. Je suis la prochaine. Merci encore pour tout ça. Merci, Camille.
Mais non, mais merci à toi, c'était trop cool.
Alors, heureuse ? Vous venez d'écouter un nouvel épisode de l'Affranchie Podcast en compagnie de Camille Aumont-Carnel à l'occasion de la publication de son ouvrage « Les mots du cul, manifeste joyeux des sexualités » aux éditions Le Robert. L'Affranchie Podcast, c'est Soazic Courbet à la conversation, Pierre-Antoine Naline à l'habillage sonore et Léa Le Faucon pour l'univers graphique. Sans savoir où tu vas. Résiste. Prouve que tu existes. Avec l'Affranchie Podcast.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.